Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieues sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair dans Le cœur sur la table.
Salut, c'est Thomas Rozek. Il ne vous aura pas échappé, même si vous ne suivez que distraitement l'actualité, que l'époque est clairement à la réflexion sur les questions d'identité, notamment les questions d'identité nationale, source d'incessants débats politiques, de clivages très vifs, mais pas dénués d'intérêt. Au contraire, le fait que tous s'interrogent sur ce que ça signifie au hasard d'être français, ça veut dire que cette identité, elle évolue, elle n'est pas figée, et c'est assez rassurant. Elle est d'autant moins immobile qu'elle se nourrit par ailleurs des mélanges. Par exemple, saviez-vous qu'au moins 2 millions de Français vivent à l'étranger actuellement selon l'INSEE ? Des dizaines de milliers rentrent en France chaque année, et parmi eux, d'anciens étudiants ou de jeunes adultes qui ont rencontré l'âme sœur et ont fondé une famille dans leur pays d'expatriation. Ils rentrent donc avec des enfants souvent binationaux, biculturels et bilingues en France. Mais alors ces enfants français de fait, se sentent-ils vraiment français quand ils arrivent ici ? C'est quoi l'identité française pour ces enfants de la mondialisation ? Marjorie Murphy et Laurie Martinez, qui creusent toutes ces questions dans leur podcast Ex-Expat, sont allés leur demander et c'est leur reportage qui forme notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B.
La balle.
Wow. Oh, oui, c'est moi qui gagne.
Oh, it's me again.
Can you please
told
take
you
your cards
when you're
getting bigger? Oh, it wasn't yesterday, but yeah.
2 days ago.
Yeah, c'était ouais, c'était il y a 2 jours.
C'était mardi.
2 jours.
La cour de récré à l'école, un terrain de jeu où tout le monde est égal. D'ailleurs, c'est bien écrit sur la façade de nos écoles publiques. Liberté, égalité, fraternité accueillent chaque matin nos bambins. Ce sont nos croyances, nos valeurs en tant que Français. Mais pour un enfant qui est né et a grandi ailleurs, ou bien qui a des parents d'origine mixte, c'est quoi être Français ? Se sentent-ils vraiment Français ? Nous sommes allés à la rencontre de quelques petits ex-expats de classe de CM2 et de 6e pour en parler.
Bonjour, je m'appelle Alexandre, je suis franco-américain.
Je m'appelle Kian, je suis franco-canadien.
Je m'appelle Alice et je suis franco-britannique.
Que ce soit pour le boulot, un changement de vie ou pour le plaisir de voyager, les parents de ces enfants ont vécu pendant plusieurs années à l'étranger. Alexandre, par exemple, a passé 7 de ses 11 ans à Hong Kong. Et à son retour en France, il se pose des questions.
C'est bizarre parce que je me sens plutôt hongkongais. Que français, mais je viens juste de rentrer en France et c'est triste parce que ça me fait de la peine de plus revoir Hong Kong.
Qu'est-ce qui fait que tu te sens plus proche de ce pays-là que celui où presque t'es né, quoi ?
Alors déjà, bah, je m'en souviens presque plus du tout, mais ouais, plus du tout de la France. Et à Hong Kong, bah, j'avais eu plein de copains. J'avais la plage, j'avais les randonnées, la montagne et surtout les différences de paysages juste à côté.
Et la façon de vivre aussi, qu'est-ce qu'il y a en France qui fait que c'est peut-être un peu plus difficile pour toi ?
Je crois que c'est la ville de Paris. Parce qu'à Hong Kong, il y avait plein de trucs, par exemple, il y avait des marchés juste à côté de notre maison, alors qu'à Paris, c'est plutôt tout plat. À Hong Kong, il y avait beaucoup de montagnes, il y avait beaucoup d'îles, ce qui fait qu'on pouvait aller sur plein d'îles différentes et faire plein de choses différentes, goûter des différentes nourritures, alors qu'à Paris, il y a plutôt, c'est juste des restaurants. Des fois, je me sens pas à l'aise, mais en France, ça va. Enfin, les gens, ils sont sympas, par exemple à l'école et tout. Mais ouais, c'est dur, parce que y a tous les souvenirs d'Hong Kong, ça me trouble.
Et qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire pour que tu retrouves quelque part cet esprit français ? Peut-être que tu n'as pas envie d'être français, finalement.
Bah, pas spécialement.
Et Alexandre n'est pas le seul à se sentir un peu perdu. Même si chaque expérience est différente, tous les enfants avec qui nous avons parlé pour ce reportage essaient de trouver un sens à leur identité française. Kian, mon fils, est issu de notre famille d'origine assez diverse. Je suis française, mon mari est britannico-canadien, nous nous sommes expatriés au Canada, où nos enfants sont nés. Ils ont grandi avec les trois cultures, les deux langues, et Kian avait 7 ans quand il est arrivé en France. Son bagage canadien est toujours très présent, bien sûr. Mais être français, c'est aussi son identité.
Je suis franco-canadien et je me sens assez français.
Pourquoi tu te sens assez français ?
Car je vis en France, j'ai une mère française. Et quand on est arrivé ici, j'ai tout de suite trouvé que c'était bien comme chez moi, quoi.
Est-ce que ton autre pays te manque ?
Oui, le Canada, il me manque, mais c'est comme ça, c'est la vie, hein. Une fois que quand tu bouges, la vie, ça revient pas, ça continue. Alors quand tu bouges, c'est tant pis.
Et est-ce que tu te sens encore canadien ou pas ?
Oui, je me sens canadien. J'ai vécu plus longtemps là-bas qu'en France. Alors c'est quand même d'abord ça. Avant, tu vois, c'est quand même d'abord Canada avant la France.
Ah, quand même.
Mais parce que j'étais d'abord canadien avant français, qui veut dire que je serai toujours canadien avant le français.
C'est vrai que ce clash culturel peut parfois être compliqué pour ces enfants qui reviennent et ne connaissent pas vraiment la France finalement. Mais à part la langue, il y a d'autres choses qui constituent une culture et une identité. Pour mieux comprendre ce que ça signifie de dire « je suis franco quelque chose », Laurie Martinez est allée à la rencontre de Wadik Doyle, professeur de communication et de mondialisation à l'Université américaine de Paris.
L'identité culturelle, c'est complexe, mais en effet, c'est une forme d'appartenance, de se sentir appartenir à une communauté nationale, religieuse, culturelle, ethnique. Donc il y a certaines identités qui sont imposées par les autres, pour les enfants aussi. Toi, tu n'es pas comme moi, ton prénom est différent, tu manges autre chose, tes parents sont différents. Donc pour l'enfant, il peut se sentir. Après, il peut assumer avec fierté ou peut nier. Donc on trouve des enfants de la même famille. Donc le premier enfant veut changer son nom, veut se montrer totalement français. Un deuxième enfant qui veut se montrer complètement étranger, qui n'identifie pas du tout avec le... ou qui montre sa différence comme forme de fierté.
Quel rôle jouent les langues dans toute cette histoire de culture ?
C'est peut-être une façon que l'enfant peut se distinguer des autres. Moi, je suis arabe, je connais le Coran, toi, tu ne connais pas. Moi, je parle couramment l'anglais. Moi, j'étais aux États-Unis pendant les vacances, etc. Donc, c'est peut-être une façon de fierté, toujours dans un contexte.
Donc, le contexte, quand ça change, ça fait une rupture. Si un enfant grandit dans une culture, par exemple aux États-Unis, mais qui est français, cette identité culturelle qu'il a en tant qu'Américain, il le ramène en France, mais il est français. Mmh. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça ?
Moi, le problème qui est de plus en plus, nous devons vivre entre les cultures. Et nous devons nous débrouiller de comment vivre entre les cultures. Donc, il faut, à mon avis, que les parents essaient de rendre les enfants fiers de la pluriethnicité, de la pluriculture, de le plurilinguisme, etc. Mais l'établissement scolaire, les professeurs ont aussi leur rôle à jouer.
À l'école, cette question de pluriculture se pose. En France, l'éducation nationale demande à ce que les enfants parlent français entre eux, dans la cour, en classe. Une sorte d'interdiction non officielle de parler une autre langue qui peut pousser les petits étrangers à une certaine frustration.
Je parlais avec une copine en anglais, puis une animatrice m'a dit « Arrête de parler anglais, c'est pas poli et tout ça ». Elle a un peu raison, mais...
Elle a un peu raison.
Parce que les autres comprennent pas et ça les dérange un peu. Mais ce qu'elle a pas raison, c'est que je les parle pas. Je parle à ma copine.
Et puis c'est chouette d'avoir des langues différentes quand même, non?
Oui. The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round, all through the town.
Mais dans l'Hexagone, il existe aussi des classes internationales dans les écoles publiques et bien sûr des écoles privées spécialisées qui permettent aux enfants de vivre leur multiculturalité en toute authenticité. J'ai parlé avec Lisa Tenot, responsable d'une classe un peu particulière à l'école EIB Monceau, une école primaire internationale bilingue. Dans cette classe dite d'immersion, on essaie en douceur d'aider les enfants à comprendre et vivre la société française.
C'est un secteur où on accueille les enfants qui ont besoin d'une petite période de transition. Et donc, nos professeurs sont français langue étrangère certifiés, donc ils ont leur certification. Et on a aussi d'expérience avec ces enfants qui ont aussi un choc culturel, un choc linguistique. Parce que même s'ils sont français, ils ne comprennent pas forcément l'environnement. Ils ne comprennent pas forcément la culture. Et pour nous, c'est très important que, oui, les enfants apprendre à lire et à écrire et à parler correctement en français, mais aussi qu'ils comprennent aussi leur nouvel monde à Paris. Et donc, nous, on fait les sorties. Par exemple, la première sortie qu'on fait, c'est un marché. Où on regarde tous les fromages, on regarde les boulangeries, on regarde le poissonnerie, voilà, on regarde toutes ces choses ensemble et après on fait une salade de fruits. Donc ça c'est un exemple tout simple où on découvre le monde de Paris ensemble, la culture française ensemble, et c'est un bon moment pour les enfants à partager ensemble.
Donc, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de leur demander s'ils se sentaient français ou pas.
C'est intéressant parce que souvent, les premières semaines d'immersion, on fait apprendre le français par les projets où ils se présentent leur pays, là où ils habitaient avant. Et quand on demande la nationalité, par exemple, d'une petite CP, des fois, les enfants qui ont les liens français, ils se disent que non, en fait, je suis américaine ou je suis chinois. Et des fois, justement, ils ne sentent pas cette lien français très fort. Des fois, oui. Des fois, non. Voilà, ça dépend vraiment chaque enfant et comment ils sentent leur propre identité.
Bonjour, je m'appelle Emma Joséphine. Je suis américaine, française et canadienne. Et je parle français, anglais, chinois.
Et toi ?
Je m'appelle Théo. Je suis américain et français. Et je parle anglais, français.
Et donc ici, qu'est-ce que vous ressentez d'être dans cette école ? Est-ce que ça vous rassure ? Parce que ça vous aurait peut-être fait peur d'aller dans une école purement française, tout de suite ?
Oui, parce que moi, je pensais l'école, c'était juste une école normale française, donc je suis comme, je ne vais jamais arriver. Maintenant, je sais que tout le monde vient des différents pays, donc maintenant, je me sens mieux.
Toi, tu as l'impression qu'en restant 5 ans, tu vas vraiment devenir français ou tu auras toujours ce côté moitié-moitié ?
Ah oui, je serai moitié-moitié. Et aussi, maman, elle veut que je parle très bien français, mais mon accent anglais, il part pas.
And,
yes.
Tuesday, I was not here.
Dimitri will pass these out to you. Please read my comments.
Vous parlez tous français ?
Oui.
Et vous vous sentez plutôt français ou l'autre ?
Je me sens plus belge.
I feel English.
Et pourquoi vous sentez plus l'autre que le français ?
Bah, moi, c'est parce que je suis allée 2 ans en Angleterre.
Moi, je me sens plus belge car j'ai tous mes cousins là-bas et j'aime beaucoup les trams.
Moi, je me sens plus russe parce que ma mère, elle habitait 5 ans en Russie. Et j'ai déjà habité là-bas.
Combien de temps ?
À peu près 3 mois.
Tu te sens donc quand même plus russe que français ?
Ouais.
Pourquoi ?
Parce que c'est plus grand. Je me sens plus français parce que je parle mieux français.
À Camille C, collège lycée public à Paris, une classe internationale a donc vu le jour il y a quelques années. On y entre dès la sixième, après avoir passé un examen écrit et oral. 30 élèves seulement sont sélectionnés. Mais l'enseignement y est gratuit. Ils ont alors 6 heures d'anglais en plus que les autres et la plupart sont issus de familles mixtes, revenus d'expatriation ou habitant en France depuis de longues années. Parmi ces enfants, il y en a beaucoup qui sont nés donc et qui ont grandi en France. La petite Alice, par exemple, n'a jamais vécu en Angleterre, mais pour elle, son identité est beaucoup plus britannique que française.
Je m'appelle Alice et je suis franco-britannique.
Est-ce que tu te sens française ?
Je me sens plutôt anglaise que française.
Mais pourquoi ? Pourtant, tu as vécu toute ta vie ici, d'après ce que j'ai compris, non ?
Oui, mais ma mère, elle me parle anglais à la maison, donc je sais pas, mais je me sens plutôt anglaise. Et presque toutes les vacances, je vais en Angleterre voir ma grand-mère.
Mais qu'est-ce que ça veut dire, se sentir plus anglaise que française ?
Je parle plus anglais, Je parle en français avec mon père, mais quand même anglais. Et en famille, on parle généralement anglais, je sais pas. Et maintenant, à l'école, je parle anglais avec mes amis.
Donc, tu as quand même grandi en France toute ta vie. Qu'est-ce que ça veut dire aussi être français pour toi ? Où est-ce que tu te reconnais dans la culture française ? Je parle pas de la langue, mais de la culture, ce que tu manges, ce que tu vis, ce que tu fais tous les jours, et la culture anglaise. Parce qu'il n'y a pas que la langue, finalement.
Les timings, donc quand je mange ou quand je mange à la maison, c'est plutôt anglais.
D'accord, ça veut dire que tu manges à 17h le soir, non. C'est ça ?
Mais oui, oui. Donc,
En grandissant comme ça, si tu te sens plus anglaise, ça veut dire que tu t'aimerais aller vivre en Angleterre plutôt que de rester en France ?
J'adore la France, mais j'adore aussi où ma grand-mère habite. Mais peut-être que j'aimerais pas autant si j'habitais là-bas. C'est comme tout.
Qu'est-ce que t'aimes dans la France pour une petite bilingue, binationale, biculturelle ?
Il y a des musées partout où on peut juste aller manger un falafel et aller au parc.
Et est-ce que le fait d'être dans une école maintenant où tu peux parler anglais avec tes copains, ça t'aide ? T'as l'impression que tu retrouves quelque chose de plus que quand t'étais dans une école juste purement française ?
Oui, j'aime beaucoup. Mais mon père, il veut que je parle plus français. Mais il y a une amie qui me parle français tout le temps. Donc j'ai un mélange des deux.
Et qu'est-ce que tu ressens de plus ? T'as l'impression que tu colles plus ? Enfin, le fait d'être avec des gens comme toi, c'est ça ?
Oui, j'ai l'impression d'être à ma place. Oui.
Voilà. Alors que tu n'y étais pas dans l'école française ?
Si, mais j'étais toujours un peu... Je sais pas, mais j'arrivais pas très bien parfois à trouver mes mots.
Moi, je sais parler toutes les langues. Moi, je sais parler les langues du monde entier. J'en savais rien. Mais maintenant que tu le dis, c'est enfantin. Ça va changer ma vie.
L'identité culturelle est donc un concept assez complexe. Chaque enfant ressent son identité différemment selon ses propres conceptions de la culture ou de la langue. Mais ce qui ressort de notre petite enquête, c'est bien que ces enfants multiculturels semblent rejeter, ou en tout cas avoir de la difficulté à embrasser leur moitié française. Pourquoi ? C'est ce que j'ai demandé au docteur Frank Scola, médecin expert en mobilité internationale.
En fait, vous évoquez une situation dans laquelle des enfants ou des adolescents se sentiraient étrangers dans leur propre pays, auraient du mal à interpréter, décoder leur environnement culturel qui correspond à leur nationalité. Rappelons que le mot « culture » revêt 350 définitions. Celle admise en psychosociologie, en psychiatrie, correspond à un socle immatériel commun à une communauté, avec justement comme trait commun des valeurs, des normes, des institutions et quelques artefacts. Et il y a une culture que l'on peut acquérir individuellement et qui évolue au cours d'une vie, et puis la culture collective. D'ailleurs, on utilise même culture pour définir pour décrire certains comportements animaux, hein, en éthologie, ce mot-là. Donc, D'une part, les traits culturels français évoluent dans le territoire, mais en plus, il y a ils évoluent avec les autres critères d'appartenance, autres que la nationalité, puisque finalement, l'affiliation à la communauté française correspond à un statut à l'état civil, à un statut administratif, et il y a une diversité de cultures à l'intérieur du pays, liées à la classe sociale, éventuellement au niveau d'études, à la région habitée, à l'âge, au genre, à l'orientation sexuelle. Et le fait que ces enfants ou adolescents, regagnant ou arrivant pour la première fois dans le pays dont ils sont titulaires de la nationalité, connaissent certains tourments, finalement, correspond plus à une problématique qu'à un problème. Il s'agit de processus d'acculturation dans lequel, avec les repères culturels qu'ils avaient développés dans leur famille, dans le contexte dans lequel ils étaient, dans le pays où ils vivaient, sont obligés de s'adapter localement, avec ou sans souffrance, de façon valorisante ou pas. Et dans cette construction identitaire de l'enfant et de l'adolescent, qui d'ailleurs se fait selon des processus différents selon l'âge, selon le stade développemental, il faut bien considérer que la culture, elle va être soit celle que l'on se choisit, celle que l'on se représente pour soi-même, celle que l'on présente aux autres dans son comportement, des choses qui sont visibles, les accoutrements, éventuellement l'accent, la prosodie, la gestuelle. Je suis en train de vous faire les gestes, les auditeurs ne les entendent pas. Et puis la façon dont c'est perçu. C'est ce qui est appelé le contre-transfert. On peut parfois accuser à tort la population adjacente de voir avec mépris nos traits culturels. Et alors, on serait obligé de les gommer. Dans la culture, il y a ce qui est visible, il y a ce que je veux bien montrer, il y a les éventuels masques, il y a ce jeu. Hein, et c'est beaucoup présent. Alors, chez le petit enfant et chez le nourrisson, on est dans le phénomène d'enculturation, E-N, enculturation, où on acquiert une enveloppe culturelle parce qu'on est en train de se développer encore. Donc, on n'a pas encore de culture. Alors, si ça se passe à cette phase-là, de toute façon, ma vie, c'est toujours, en tant que petit garçon, ma vie, c'est tous les jours des déceptions, des changements, des surprises. Je me construis, il n'y a rien de nouveau. Par contre, si on est un grand enfant, un préadolescent ou un adolescent, période de grande vulnérabilité parce qu'on se structure à cette période-là en fonction du regard de l'autre. Ce sont les remaniements narcissiques. Là, c'est un phénomène d'acculturation qui sera le même à chaque fois que l'on changera d'environnement culturel. Donc, l'affiliation culturelle ne correspond pas à une nationalité, ne correspond pas à une langue, même si la langue peut être un trait culturel. Mais le syndrome de Laurence d'Arabie, typique, sa culture dominante ne correspondait pas à sa langue dominante. Il paraît que quand il parlait arabe, les arabophones natifs se moquaient de lui.
Bah, c'est drôle parce que les enfants qu'on vient d'entendre, pour beaucoup, c'est la langue, leur culture. C'est-à-dire, on a des enfants qui sont nés en France ou pas nés en France, mais qui ont grandi en France, qui ont une dizaine d'années et qui ont donc vécu depuis 10 ans en France. Mais dans une famille, soit bilingue, soit une famille totalement anglaise ou totalement d'une autre nationalité, et qui, quand même, ne se considère pas complètement français, voire même pas tant français que ça. Donc il y a cette espèce de confusion, finalement, entre ce que vous disiez, entre la nationalité, la culture, la langue, etc.
En effet, ils alignent leur langue sur leur culture comme si l'un était le pendant exact de l'autre. Mais en fait, la langue, c'est l'un des seuls traits physiques visibles dans l'iceberg que représente la culture. La culture, ce sont beaucoup des choses qui se cachent. La notion du décent et de l'indécent. La notion du plaisant et du séduisant et du repoussant. La notion du beau et du moche, du gros et du maigre, de la douleur, tous ces implicites.
Ces enfants, quand même, même si ça date pas d'avant-hier que tout le monde s'expatrie, que les gens aillent dans d'autres pays, mais enfin, on sent que c'est un mouvement de plus en plus fréquent pour beaucoup de familles, et pas seulement l'expatriation de sociétés, de gens qui immigrent, qui vont et puis qui reviennent. tous ces enfants, ils ont quelque part une identité de citoyen du monde, justement. Ils ont moins d'identité. T'es français, t'es comme ça. Comment ces enfants peuvent évoluer dans des pays comme le nôtre, qui sont justement très identitaires, malgré le nombre d'immigrations qu'il y a eu? C'est parfois difficile. Ces enfants, parfois, ne se reconnaissent pas. On a interviewé un petit garçon. Lui dit, je ne suis ni français ni américain. J'ai vécu 7 ans à Hong Kong. Je suis donc hongkongais.
Il y a mille et une façons d'être étranger. Je vous rappelle que Charles Aznavour disait « Je ne suis pas 50% arménien et 50% français, je suis 100% les deux ». Il a bien résumé le fait que culture nécessitait qu'il y ait un consensus.
En quittant les élèves de l'EIB, comme ceux de Camille C, on s'est rendu compte qu'on avait touché du doigt un sujet peut-être plus profond qu'il n'en a l'air. Enseignants et chefs d'établissement étaient abasourdis de ce qu'ils avaient entendu de la bouche de leurs élèves. C'est le cas de Pauline Popa-Jones, professeure principale des 6e de l'établissement Camille C, elle-même anglaise, vivant en France depuis 20 ans et mère d'enfants franco-britanniques.
C'est curieux, je suis assez étonnée de voir qu'ils ne sont pas français. Pourquoi ? Je pense que c'est plutôt les élèves qui sont partis vivre à l'étranger qui ont du mal à revenir. Je pense que c'est plutôt ça. Ceux qui sont, qui parlent anglais parce qu'ils ont un parent qui est là comme moi, je pense que c'est un peu différent. Et je pense que la différence que je fais, c'est ceux qui ont connu les expériences, soit en Chine, Singapour ou ailleurs, qui ont un petit peu du mal à revenir peut-être dans le système.
Et qu'est-ce qu'il a, ce système, pour avoir tant de mal alors qu'on a 10 ans à revenir? C'est quand même... Pourquoi ça n'a pas été le cas dans l'autre sens?
Alors peut-être c'est double, peut-être c'est le rigidité, peut-être c'est un peu le rigide, le côté administratif, je pense que c'est ça. Et peut-être le côté école, pour eux, c'est plus formaté. Et donc ils ont peut-être plus du mal peut-être à rentrer un peu dans ce qu'on appelle le moule, qui est le moule en France.
Les cases ?
Les cases, voilà. C'est les cases dans lesquelles on a envie de mettre les gens et de les voir peut-être moins comme les individuels et peut-être plus comme quelqu'un qui correspond à quelque chose.
Le côté rigide serait donc un des problèmes. Mais est-ce que la fameuse différence que l'on nous fait remarquer tous les jours, même à la télé, quand certains polémistes pointent du doigt des prénoms pas assez français, ne serait pas aussi en cause ? Kian, au prénom loin d'être gaulois, a voulu réagir à cette question.
J'ai un nom. On a le droit d'avoir un prénom et un nom. Moi, c'est Kian Murphy, et voilà, c'est un peu... C'est gaélique, c'est pas du tout français. Mais s'ils aiment pas, tant pis pour eux, c'est leur avis. Moi, mon avis, c'est... J'ai mon prénom, j'ai mon nom. Si j'ai mon passeport français, je suis français. Alors, tant pis
mais
pour...
Mais si quelqu'un venait te dire, eh ben non, moi, je suis pas d'accord, t'as pas le droit de t'appeler Kian en France, tu ferais quoi?
Je lui dirais, je sais pas, je dirais, si t'aimes pas, t'as qu'à quitter la France, t'as qu'à aller dans un autre pays où tout le monde s'appellerait pareil. Voilà. Ou aller dans ta propre villa, dans un petit endroit sécurisé, et tu prends tous les gens qui s'appellent Jonathan, et voilà.
Jonathan, ce qui est un peu anglais aussi,
oui,
pour le coup.
Ou
Claire.
Michel. Voilà, Michel. Tu prends toutes les personnes qui s'appellent Michel, et voilà, et après, toi, tu restes dans ce petit endroit.
Mais tu trouves ça curieux quand même qu'on réfléchisse comme ça, toi qui es un enfant du monde, quoi, finalement?
Je trouve ça bête.
Des tas d'enfants d'expats, étant nés à l'étranger, n'arrivent en France qu'à l'âge adulte. Ils ont du sang français qui coule dans leurs veines, comme tous les petits ex-expats que l'on vient d'entendre. Comment vivent-ils, eux, ce retour aux sources, qu'ils n'ont finalement jamais connu qu'à travers ce que leurs parents français leur avaient transmis? J'ai rencontré Joël, franco-américain, qui a ressenti à son arrivée en France il y a 13 ans, alors qu'il était dans la vingtaine, cette même difficulté à se sentir français.
Tout était légendaire en France. Le beurre était mieux, la viande est mieux, les gens sont mieux. Un peu romanticisé, à mon avis. Il y a des choses qu'elle avait raison, notamment du fromage et du vin. Mais les autres choses, tout n'est pas mieux ici. Mais j'avais envie de voir ça et avoir mes propres opinions. Je voulais découvrir mes racines, je voulais voir ça. Les gens avec un prénom comme Joël, les gens m'ont traité de Frenchie tout le temps, mais bon, je parlais pas la langue, j'ai jamais mis un pied ici. J'ai joué au baseball, football américain, j'étais dans les écoles américaines.
Qu'est-ce qui est arrivé en arrivant ici? Quelle a été ta réaction?
Au début, j'ai adoré. le mytho que les Français sont pas gentils, etc. Je crois que ça doit être vrai pour certaines gens, mais moi, j'ai fait le moins d'efforts de me présenter en français, de m'excuser que je parlais pas français. Et les gens, ils étaient super accueillants. À un moment, je me suis enfermé dehors, après 2 semaines ici, sans mes clés. Une longue histoire, mais en bref, j'étais 3 jours SDF dans la cour de chez ma copine. Et les gens que je ne connaissais pas, ils me donnaient leur manteau, ils me donnaient à manger. Ça n'arrive pas à New York. Donc, ça me chauffait le cœur. Après, c'est difficile, la démarche administrative, trouver un travail, je ne parlais pas français. Tout ça, c'était très, très dur. Impossible à trouver un appartement. Je n'avais pas de garant, je n'avais pas un CDI, je n'avais pas... Mon job, c'était un job américain, c'est... Mon premier appart, j'étais obligé de donner 10 mois de loyer. Donc, quand t'es jeune et tu travailles, t'es jeune immigré et qui a 5000 euros pour chercher un appart.
C'est marrant parce que tout de suite tu dis jeune immigré, mais t'avais ton passeport français.
Oui, mais je sentais comme un immigré quand même. C'est à ce moment-là, je sentais vraiment comme un étranger.
Qu'est-ce que ça veut dire finalement d'avoir un passeport français, d'avoir du sang français dans le corps, mais que finalement, est-ce qu'on est français quand on n'a jamais vécu ici, qu'on parle pas la langue, qu'on n'a pas eu la culture, enfin qu'on a eu une certaine culture française, mais pas plus que ça?
Moi, je sens accepté dans le monde français. Je sais que je vais toujours avoir un accent. Je sais que c'est les références culturelles que je suis perdu. C'est pas les paroles, c'est pas le syntaxe. Et là, je crois que je pense à ma mère qui émigrait aux États-Unis très jeune et on le taquine toujours parce qu'elle trempe les expressions et son accent. Et ça donne un peu de partie de sa charme quand même. Mais je ne sens pas exclu. Je sens mes amis français, ils m'acceptent comme français maintenant, mais je suis quand même leur pote américaine et ils vont se foutre de ma gueule.
Est-ce que quand tu vois tes enfants notamment, tu te dis oui, ils sont français, mais... parce que, bon, les tiens, en tout cas, ont grandi pour l'instant ici. Qu'est-ce que, quand on a été un enfant franco quelque chose, sans avoir jamais, pour le coup, vécu en France, qu'est-ce qu'on a envie de dire à des enfants franco quelque chose?
C'est un phénomène que j'ai déjà remarqué avec les jeunes du quartier. Et si je demande après ça, ils vont tous dire pareil, sénégalais ou arabe ou français, ou peu importe. Mais la grosse blague, c'est si la police pose les mêmes questions, ils disent qu'ils sont français. J'ai les papiers, je suis français. Mais si moi, comme ami, je demande, je suis de Côte d'Ivoire, je suis du Maghreb, ils vont choisir une région ou un pays. Et aux États-Unis, ça n'existe pas. Les enfants des émigrés, même si eux-mêmes ils ont émigré à 6 ans, 8 ans, ils sont fiers d'être américains, ils clament au plus rapide qu'ils peuvent. Et
Pourquoi, à ton avis?
Je me suis réfléchi beaucoup. Le mieux que je peux répondre à ça, je crois qu'aux États-Unis, il y a spécifiquement, peut-être toute l'Amérique du Nord et Sud, il y a cette idée que ces pays sont jeunes. Et les gens qui sont là, ils ont souffert pour être là-bas. Soit ils étaient pris en esclaves, soit ils ont échappé à la Shoah, soit ils ont échappé à la famine. Chaque pays dans le monde, quand il y a une grosse merde là-bas, les gens ils rêvent d'aller aux États-Unis pour cette rêve américain, qui c'est aussi un mytho. Mais cette idée qu'il y a la place pour tout le monde, si tu travailles bien, tu as une idée, tu peux réussir, même si c'est vrai ou pas, c'est un bon objectif d'avoir. L'idée que mon but, c'était d'être autosuffisant.
Et toi, qu'est-ce que tu dis quand on te demande ta nationalité?
Je suis fier d'être américain, je suis fier d'être français. Je sais que c'est super cliché, mais je sens plus un citoyen du monde qu'autre chose.
De toute façon, on va rejouer. Okay, hein. Oui, de toute façon, on va rejouer, c'est pas grave. Ouais, on va faire plein de parties.
Ouais, moi, on va en faire.
Mais jusqu'à ce que ça finisse. Hein.
I never played, but I saw it. I saw it being played once. It was so fun.
It's like a nicer game.
Merci à Marjorie Murphy et Laurie Martinez pour ce reportage réalisé par Quentin Bresson. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. 5 étoiles sur Apple Podcasts seront, vous le savez, le plus beau des cadeaux pour nous. Facebook, Twitter et consorts si vous voulez nous parler. Et à lundi pour un nouvel épisode.
Binge.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée
et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real, frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics, all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.